Dieu est-il mort? Cette question porte en elle une dissonance gênante. Elle provoque presque automatiquement un choc désagréable qui engendre l'indignation. Comment peut-on poser de telles questions? Il faudra pourtant s'habituer à cette question en attendant qu'elle devienne affirmation. Cette année, plusieurs journaux à grand tirage l'ont affichée en première page de couverture, et cela dans nos pays considérés comme les plus évolués. Cette question perdra peu à peu de son caractère choquant et deviendra très vite à la mode. Dieu existe-t-il est une question que l'on accepte facilement. Mais Dieu est-il mort? Voilà qui est désarçonnant. Tout d'abord, on se dit « c'est un non-sens ». Car lorsqu'on parle de la mort de quelqu'un, on affirme son existence préalable. Ne peut mourir que ce qui a vécu. On ne parle pas de la mort de ce qui n'a jamais été. Or, si l'on a cru que Dieu était vivant, comment peut-on supposer qu'il ait pu mourir? Pourtant, on le pense. Pourtant, on le dit. Pourtant, on le proclame. Des hommes d'Église sont occupés à écrire un évangile de l'athéisme chrétien. Des théologiens s'unissent pour former le groupe de la mort de Dieu. Des philosophes professent ouvertement que Dieu est bien réellement absolument mort. Ne nous étonnons pas outre mesure devant ces affirmations extravagantes qui tiennent du délire, car elles sont à l'aise dans notre siècle de matérialisme outré, où les seules valeurs sont celles que l'on peut voir, compter et palper. L'homme moderne semble borner ses ambitions à trois choses: ma maison, ma voiture et qu'on me laisse tranquille. Tandis qu'il prospère extérieurement, il se dégrade par l'intérieur. À regarder ainsi le monde moderne avec lucidité et avec réalisme, on pense à une dent apparemment saine qui cache une cavité énorme. On pense que si Dieu est mort, son cadavre, c'est cette humanité déjà pourrissante moralement et spirituellement. Les penseurs de notre temps, car c'est ainsi qu'ils entendent être considérés, qui ont découvert que Dieu était mort, considèrent que c'est là une saine découverte de notre civilisation en pleine évolution. Une nouvelle étape franchie dans le progrès de la pensée humaine. Peut-on rationnellement parler de progrès de notre civilisation lorsqu'elle a laissé des millions de morts sur le champ de bataille qu'était notre monde il y a à peine 25 ans? Peut-on parler de santé psychologique lorsque nous nous préparons fiévreusement à un nouveau conflit mondial dont l'horreur et l'ampleur dépassent l'imagination? Lorsque nos journaux parlent encore en première page de pacte de non-agression, de force de frappe, de force de dissuasion, de guerre froide et d'armée de paix? Peut-on raisonnablement affirmer que l'humanité est parvenue au stade adulte de son développement lorsqu'elle encombre ses asiles, ses hôpitaux psychiatriques et ses pénitenciers? Car il faut le reconnaître, nous vivons dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Cette incertitude qui fait la fortune des compagnies d'assurance. Les tensions entre les peuples trouvent leur retentissement chez l'individu même. Le vice, le vol, l'adultère, le crime avancent à grands pas au fur et à mesure que nous progressons dans le domaine matériel. Au moment où, plus que jamais, tous les hommes devraient tourner leur regard vers celui qui a créé le ciel et la terre, des millions sont prêts à reléguer le christianisme au rang des superstitions, survivance d'un passé ignorant, et a décrété que l'idée de Dieu est périmée, irrecevable et insensée dans notre siècle scientifique. Jésus est donc mort pour rien. Certes, comme le remarque justement le penseur Gaston Racine, beaucoup d'hommes et de femmes ne professent peut-être pas l'athéisme. Beaucoup ne militent pas dans les rangs d'une philosophie matérialiste, positiviste, existentialiste. Pourtant, pratiquement, ils sont athées, sans Dieu, sans secours divin, sans Jésus, sans vie éternelle. Ils ont une religion, mais pas de sauveur. Baptisés, ils pensent se faire enterrer religieusement, mais sont sans Dieu pour vivre. S'ils ne clament pas sur les scènes de théâtre avec Jean-Paul Sartre, « Dieu ne me voit pas, ne m'entend pas, ne me connaît pas. Je suis seul, désespérément seul. Ce vide au-dessus de ma tête, c'est Dieu. Cette brèche dans la porte, c'est Dieu. Ce trou dans la terre, c'est Dieu. L'absence, c'est Dieu. Le silence, c'est Dieu. La solitude, c'est Dieu. S'ils ne disent pas cela, ils le pensent. S'ils ne le pensent pas, leur vie pourtant prouve que Dieu et le néant, pour eux, c'est la même chose. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, Dieu n'est rien, l'homme est tout. Et parce qu'il se croit tout, il ne veut pas de Dieu et ne cherche pas son concours. Dans ce sens, c'est vrai que Dieu est mort, car chaque homme a tué Dieu pour lui-même. Mais la nature de l'homme l'oblige à en trouver un autre, et cet autre Dieu sera une idole à laquelle il sera asservi. Le plus souvent, faute de connaître le vrai Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, les hommes se fabriquent un Dieu personnel. C'est le Dieu de notre imagination. C'est celui que nous confondons avec notre conscience, laquelle est souvent bien malade, parce que nous sommes parvenus à la corrompre en lui faisant tolérer le péché. C'est alors un Dieu qui me laisse tout faire, qui m'approuve toujours, qui fait ma volonté. C'est un Dieu qui ne me coûte rien. Il ne me prend pas de temps, il ne touche pas à mon argent, il ne dérange pas mon confort, il me laisse tranquille. C'est un Dieu auquel j'adresse des reproches lorsque les choses vont mal, et je suis prêt alors à le désavouer. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? C'est un Dieu qui me doit mon salut, car je n'ai jamais rien fait de mal à personne, je n'ai jamais tué et jamais volé. C'est un Dieu duquel je me lasse finalement, parce qu'il ne se manifeste jamais, parce que de temps en temps il ne fait pas paraître un signe extraordinaire pour me montrer qu'il est là. Ce Dieu-là est bien mort, il est sourd, il est muet, il est aveugle, il est semblable aux idoles dont parle la Bible, et à Baal, le faux Dieu dont les prêtres réclamaient à grands cris une manifestation. Le prophète Élie témoin de leur folie, se moqua d'eux ouvertement en disant « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour. Il peut transformer un être humain dans son fond. Il peut convertir. Il répond aux prières et veille sur ceux qui obéissent à sa voix et qui grandissent dans la connaissance de sa volonté. Il est hélas un Dieu inconnu par une vaste majorité de ses créatures pour qui la Bible est encore un livre fermé, voire même suspect. C'est en lisant la Bible et en la vivant qu'on apprend à connaître le vrai Dieu, le Dieu vivant, car c'est ainsi qu'il est appelé par opposition aux faux dieux qui, eux, sont morts. Le Dieu de la Bible est un Dieu éternel qui seul peut satisfaire notre soif d'infini, notre soif d'éternité, notre soif de beauté et de grandeur. Les faux dieux qui ont pour nom l'argent, la science, la gloire, la puissance, sont impuissants lorsqu'il s'agit de combler le vide angoissant de cet être insatisfait, agité et désorienté qu'est l'homme sans Dieu. Il est comme un navire sans gouvernail, sans port, sans boussole et sans but. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dit Jérémie. Et ce langage est impressionnant, tant son application convient à notre temps où l'homme se croit le maître de l'univers. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, n'est pas un Dieu que l'on prouve, c'est un Dieu qui s'éprouve. Tout chrétien ami de Dieu, nourri des paroles de Dieu, peut aujourd'hui affirmer n'importe où et n'importe quand. Non, Dieu n'est pas mort. Je lui ai parlé. Je me suis promené avec lui. Il prend soin de moi. Et comme la nature témoigne d'un Dieu vivant et puissant, ma vie porte l'empreinte de sa présence, de son amour et de sa force.